Est-ce qu'il vous arrive de boire dans la journée?
Justement, c'est ça qui m'a vraiment alertée. Ça peut, les premières envies peuvent être directement autour de 15h l'après-midi. Et si j'y résiste, de toute façon, à 17h, mais ça revient comme un boomerang.
Pourquoi 17h?
C'est toujours l'heure où le petit poison de l'intérieur fait signe.
Vous vous souvenez de Sue Ellen Ewing dans Dallas? Elle buvait. Dans une série située au Texas où les personnages masculins ne pouvaient pas entamer une conversation sans se servir un whisky, elle devait se cacher pour boire. Elle était l'archétype de la mauvaise mère, de la mauvaise épouse, de la mauvaise bru, la honte de la famille Ewing. 40 ans après, l'image de la femme alcoolique a-t-elle évolué? Une fois n'est pas coutume, l'instant M convie une documentariste et un médecin pour évoquer l'alcoolisme au féminin, ou plutôt l'épineuse question de sa médiatisation. Comment les médias ont agi pendant si longtemps dans la perpétuation d'un tabou? Comment, petit à petit, ils aident à briser le silence? Télévision, presse féminine, réseaux sociaux, comment le regard change? Comment les témoignages se partagent? Le documentaire de France 2, diffusé mercredi soir, aurait-il été possible à l'époque de Sue Ellen?
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
En France, j'ai découvert les apéros. Et donc, du coup, cette idée de boire plusieurs verres avant même un repas, et puis le vin pendant le repas, et puis les 10 jours après le repas, et puis on reste tout l'après-midi, puis ça commence le deuxième apéro à 18h. Enfin, en fait, on enchaînait souvent un petit midi-minuit.
Alcool au féminin, mercredi soir, 22h55. Bonjour Marie-Christine Gambard.
Bonjour Sonia de Villers.
Soyez la bienvenue, vous Merci. Êtes la réalisatrice, l'auteur de ce film qui tient en 52 minutes. Et nous, on a trouvé que ce film était un exploit parce qu'il tricote beaucoup de témoignages de femmes qui assument avec un courage admirable de témoigner face à la caméra. Et je le dis, que c'est très court, 52 minutes, pour raconter des histoires aussi douloureuses, aussi longues, parce que ce sont de longs combats. Et vous avez réussi à éviter une sorte de zapping obscène où on garderait que la petite phrase qui tue. On les écoute, on les entend. Voilà. Je le dis, vous êtes accompagnée de Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, vous êtes addictologue, vous êtes l'auteur il y a déjà 10 ans de Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir, qui était paru chez Odile Jacob, qu'on trouve encore en librairie. Et je le dis, il y a déjà 10 ans, c'est-à-dire que vous avez derrière vous une longue route pour médiatiser ces Absolument. Sujets, justement, pour rompre le tabou, pour rompre le silence. D'abord, Marie-Christine Gambard, comment vous avez convaincu ces femmes de parler face caméra, puisque plusieurs d'entre elles parlent face caméra?
Bah d'abord, la première chose a été de les trouver, donc de faire ce qu'on appelle dans notre jargon un petit peu un casting. Donc c'est vrai, comme vous le disiez, la médiatisation est quand même de plus en plus importante aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pages Facebook qui traitent de l'alcool et des femmes. Il y a l'association Addictel, du docteur Fatma de la Maison Neuve, il y a Janvier Sobre de Laurence Côté. Il y a aussi des pages Alcool au féminin. Donc j'ai passé les petites annonces et puis j'ai été contactée par des femmes que j'ai rencontrées toutes, une par une, où je leur ai expliqué un petit peu les enjeux du film, voilà, pour voir si elles pouvaient. Ce que je cherchais, moi, de toute façon, c'était des femmes de tous milieux sociaux,
c'est ça.
De tous âges. Je voulais pas me cantonner et tomber dans des stéréotypes qui circulent beaucoup trop, où on imagine toujours que ce sont des femmes de milieux populaires qui boivent. Non. Et le film le montre bien. C'est-à-dire que ça touche vraiment tous les milieux.
Et donc, vous avez notamment le témoignage d'une femme aristocrate.
Exactement. Une parole rare.
Une grande beauté, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Et grande élégance.
Grande élégance et qui raconte ce que c'est que l'alcoolisme mondain, ce que c'est que le poids d'une famille où Noël est toujours sensationnel, quoi qu'il s'y passe, même quand on s'effondre en quasi-coma éthylique devant tout le monde.
Ouais. Donc j'ai rencontré ces femmes, je leur ai expliqué un petit peu mon objectif, c'est-à-dire à travers leur témoignage d'arriver à briser le tabou de cet alcoolisme au féminin qu'on a trop souvent mis dans des cases, en leur expliquant aussi que voilà, que parce que je suis toujours très sincère avec les gens que j'interviewe en général, enfin à qui je demande de témoigner dans les films, c'est-à-dire je leur ai vraiment expliqué, voilà, c'est un témoignage à visage découvert. ça veut dire que vous allez dire devant la France entière que vous avez bu ou que vous buvez encore, etc. Ouais,
et elles en sortent toutes...
Voilà. Et je voulais absolument qu'elles prennent bien conscience
de ce qu'a signifié,
d'autant plus que j'en ai quand même une dans le film qui est abstinente depuis quelques mois.
Seulement.
Donc je voulais vraiment qu'elle mesure bien quand même la portée de ce que ce film pourrait avoir sur sa vie, quoi.
Elles le disent elles-mêmes à quel point le poids du tabou est culturel pour les femmes.
C'est culturel, c'est voilà, une femme ça ne boit pas à 9h du matin son petit blanc sur le zinc en compagnie d'hommes qui font la même chose. Un homme qui boit, c'est un bon vivant, une femme qui boit c'est une dépravée, c'est une femme qui n'est pas respectable. Et puis, surtout, c'est une mauvaise mère.
Fatma Bouvet de la Maison Neuve, justement, ce qui m'a donné l'idée de vous faire venir, c'est que Marie-Christine Gambard opère des allers-retours dans votre cabinet. Vous recevez des femmes en consultation. Alors là, pour le coup, elles sont filmées de biais. On voit leurs mains qui se tordent, on voit les genoux qui tressaillent. C'est des moments difficiles, hein, d'échange avec vous. Vous êtes en revanche filmée dans ce... Et l'une des patientes dit « Moi, je ne me sentais pas alcoolique. » Parce que pour moi, l'image de la femme alcoolique, c'était pas ça. C'était une femme qui roulait par terre. C'est une femme qui buvait le matin. L'image de la femme alcoolique. Vous ne cessez de vous battre contre ça, l'image de la femme alcoolique.
Alors oui, d'abord, il faut faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut dire que les femmes qui ont un problème d'alcool, c'est une maladie. Alors que visiblement, et c'est ce qu'on dit hein, dans le documentaire, oui. On leur renvoie cette image de vicieuse, de dépravée. Et puis surtout, l'alcool désinhibe. Et qui dit femme désinhibée sexuellement. Il y a toujours cette connotation. C'est pour ça que la question de l'alcool, de la santé en général des femmes, mais de l'alcool en particulier, c'est une question avant tout médicale, c'est une maladie sévère, grave, mais c'est aussi une question sociale et politique.
C'est ça.
Donc c'est ça, moi, qui m'intéressait.
C'est ça. Et le médiatique est clé, justement, entre le social et le politique.
Oui. Parce que les femmes qui boivent très souvent me disent « Moi, je voulais accéder à un statut supérieur en termes de représentation. Je suis issue d'une famille pas très cultivée, etc. Aujourd'hui, je suis bardée de diplômes. » Et ça fait, pour moi, ça me donne une contenance de prendre un verre en soirée. Mmh. Pourquoi ? Parce que vous voyez aussi dans les films des Wonder Woman qui boivent, je ne sais pas, moi, pour ne pas... Il y avait cette série américaine sur Netflix, House of Cards, où tous les soirs, la femme du président rentre et boit. C'est une femme qui incarne la puissance. Et donc,
d'ailleurs, vous dites à une de vos docteurs, à une de vos patientes, vous dites dans le film, le perfectionnisme est quelque chose qui revient très fréquemment chez les femmes alcoolodépendantes, alors qu'on s'imagine tous que la femme alcoolodépendante
c'est tout l'inverse.
C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune volonté ni aucun contrôle de soi.
C'est tout l'inverse. Toutes les femmes qui ont un problème d'alcool aujourd'hui, la majorité d'entre elles sont des femmes qui sont très instruites, très diplômées. Et ce que j'ai apprécié de ce que Madame Gambard a retenu dans le documentaire, c'est le lien entre la perfection, la recherche de la perfection, la pression au travail, la recherche de la perfection domestique, la féminité. Moi, je les appelle des hyper-femmes parce que ce sont des femmes qui cherchent à être bien sous tout rapport. Et toute cette pression-là, justement, à un moment de la journée, elles ont besoin de décompresser. Et quel est le produit avec lequel elles décompressent le plus facilement et qui, en plus, est médiatisé.
Il est médiatisé
à tout point de vue.
C'est ça.
Et ben, ça sera l'alcool.
Il est médiatisé.
Et il est fait pour elles aujourd'hui.
Il est fait pour elle d'ailleurs.
Ah mais alors une de vos témoins le dit. Il faut savoir que les alcooliers disent que l'avenir de l'alcool, l'avenir du vin est la femme et
les jeunes. Donc en termes de marketing, les bouteilles, les packaging.
Mais oui, vous allez voir avec les fêtes, c'est terrible. Aujourd'hui, on vit une période extrêmement tendue parce que la veille des fêtes, vous remarquerez maintenant que je le dis, les packaging des bouteilles d'alcool sont toutes féminisées. D'autant qu'en plus, ce sont les femmes qui font les courses, donc c'est elles aussi qui achètent l'alcool.
Évidemment, Marie. Christine Gambard, quand vous choisissez vos témoins, vous choisissez des femmes qui vont donc, vous l'avez dit, témoigner face caméra après des années de mensonges.
Bien sûr, on se cache. On se cache parce qu'on a honte. Quand on est malade alcoolique, on a une ingéniosité, une créativité et un pouvoir de mentir, mais incroyable.
Bon, je tricotais des ouvrages avec des manches larges. Et en fait, je planquais les bouteilles dans les manches. Ou alors dans les pelotes. Acheter des grosses pelotes de laine, parce que ça existe, hein, des pelotes qui sont grandes comme ça. Tu caches la bouteille dans le milieu. Hein.
Voilà, la télévision a une heure de grande écoute, l'image, le regard face caméra, quand on est devenu une espèce de mythomane professionnel.
Ah bah complètement. Complètement. C'est vrai que ces femmes m'ont raconté un petit peu tous les subterfuges qu'elles pouvaient utiliser pour se cacher, devant leur famille, au travail. Enfin, c'est absolument incroyable. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que justement aujourd'hui, elles aient accepté d'en parler, de me livrer presque un petit peu leurs secrets,
ouais,
qui sont pour certains extrêmement honteux. Quand Ariane, enfin, je veux pas dévoiler le film, mais nous raconte, par exemple, quand elle a eu son petit bébé, qu'elle se promenait avec son landau, son bébé, la bouteille de champagne cachée dans le landau, et qu'elle n'avait qu'une crainte, c'était que les gens admirent son petit bébé et se penchent vers lui et voilà, vous avez le champagne.
Ouais.
C'est des...
Voilà. Et alors, vous avez fait le choix, elles sont toutes très jolies, elles sont bien filmées, c'est-à-dire que vous les rendez belles et courageuses. Oui. Et vous faites le choix, il y a toujours un petit insert où il y a une photo d'elle, un verre à la main. À un moment, elles sont nombreuses dans le film à être représentées. À un moment, il y a une photo posée dans un coin, on les voit trinquer. Bah, par exemple, Ariane, celle qui se baladait, on la voit.
Oui, elle, voilà. Oui, c'est quand elle parle effectivement de leur passé, quand Ariane dit qu'elle venait d'un milieu aristocratique, que rien la prédestine à ça. Effectivement, j'ai eu envie de la montrer à cet âge-là, où elle devait avoir une trentaine d'années.
L'américaine, il y a le moment où elle s'est postée sur Instagram, ivre morte.
Mais ça, ce sont des photos qu'elles m'ont données. C'est-à-dire pour moi, il était évidemment, parce que toute la difficulté de faire un film comme celui-là, quand on demande à des femmes de raconter leur année d'alcoolisme, c'est qu'est-ce que je mets à l'image en dehors de leur interview face caméra.
C'est ça.
Je fais pas non plus de la radio, donc il fallait bien faire un peu d'image. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le travail d'Isabelle Razavel, la chef opératrice, qui m'a vraiment beaucoup aidée, je dirais, à mettre en image ces femmes, à les rendre belles, comme vous dites. Et donc, on a cherché. En tout cas, ce qui était évident, c'est qu'il était hors de question pour nous de les filmer aujourd'hui, un verre à la main. En revanche, si elles nous confiaient leurs photos, de leur époque de gloire, entre guillemets. Voilà, je me suis permise de temps en temps d'en mettre.
Toutes vos témoins sont abstinentes. Docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, à un moment, il y a une de vos patientes dont on ne voit pas le visage qui vous raconte comment toutes ces soirées se terminent en blackout et vous lui répondez est-ce que vous avez réfléchi à pourquoi vous cherchez systématiquement à vous anesthésier ? Et puis s'ensuit un échange et vous dites à votre patiente: les agressions, les abus sexuels, c'est mon pain quotidien. Vous le dites à votre patiente.
Merci beaucoup de souligner cela, parce que justement, je voulais faire le lien avec la question de l'intimité des femmes qui est très peu médiatisée. Parce que tout ce qui relève de la féminité, tout ce qui relève de notre corps est vécu comme obscène par l'opinion publique. Et donc, ce que j'ai voulu faire comme travail avec Marie-Christine Gambard, c'était précisément de leur donner la parole sur une partie de leur féminité, de leur intimité qui est complexe. Pourquoi est-ce qu'elles s'assomment? Pourquoi est-ce qu'elles cherchent à raccourcir les journées avec l'alcool, sauf c'est pour ne plus penser à une douleur profonde. Elle peut être celle d'un passé d'abus sexuel, d'un viol, elle peut être celle d'une agression psychologique, elle peut être celle d'un manque de confiance en elle, elle peut être celle de ne pas s'aimer en tant que femme. Il y a eu des femmes qui nous ont dit qu'elles se cachaient, qu'elles cachaient leur féminité et que ça leur posait un problème identitaire, je crois que vous en parliez tout à l'heure, d'être une femme. Donc ça signifie à quel point aujourd'hui les questions féminines ne sont pas entendues. Et moi, mon combat depuis quelques années maintenant, c'est justement d'introduire le féminin, la féminité dans l'examen médical et psychiatrique de mes patientes.
Mais je vous pose vraiment la question, dans le cabinet d'une psychiatre addictologue qui reçoit des femmes pour des questions d'addictologie et d'alcoolodépendance, il y a un avant et après MeToo. Il y a un avant et après MeToo.
Ah, écoutez,
la question de la médiatisation.
J'y pensais en venant. Oui. Honnêtement, je pense que dans la médiatisation, il y a un avant et un après. Mais dans l'intimité d'une consultation de psychiatrie, hélas, non. Hélas, non. Ouais. J'ai encore des jeunes femmes de 22, 23 ans qui me disent « j'ai bu, il a abusé de moi, si je le dénonce, on va me traiter de femme facile ».
Oui, c'est ça. C'est ça.
Voilà, donc il y a toute une éducation à faire et ça, c'est vraiment un gros boulot. C'est vraiment un gros boulot.
Marie-Christine Gambard, j'aimerais qu'on entende le témoignage de cette grand-mère qu'on a trouvée tellement courageuse.
Michel.
Mes enfants m'ont éloignée de mes petits-enfants. Et ma petite-fille, je suis triste quand je pense à elle, c'est vrai. Parce que je ne la vois pas. Quand ils font des réunions pour la petite, des anniversaires, je ne suis pas invitée. Pour eux, j'étais pas vraiment une grand-mère, quoi. Je buvais, donc les grand-mères ne font pas ça. Une mamie, ça boit pas. Mais je sais qu'un jour, ça va revenir. Faut laisser du temps.
Alors, elle, c'est vraiment une combattante, hein. C'est 22 ans d'alcoolisme, parce que chaque personnage est présenté avec les années d'alcoolisme et les mois ou les années d'abstinence. Et en fait, elle raconte chacune un voyage au bout de l'enfer. Et vous allez au bout de l'enfer avec elle avant de raconter l'espèce de choc ou de déclic.
Qui leur a permis, effectivement, de sortir de ces années d'alcool.
Oui, c'est ça.
Et pour chaque femme, c'est une histoire différente, évidemment. Mais ça m'a semblé important de croiser ces témoignages, d'entendre Sylvie, qui tout d'un coup a eu vraiment le gros choc, quand tout d'un coup, la garde de son enfant lui a été retirée, où ça a été, effectivement, le point déclencheur. Pour Ariane, c'est un Noël en famille qui s'est très mal passé, puisqu'elle s'est écroulée ivre morte. Pour Stacy, notre Américaine, qui vit en France depuis 10 ans, c'est le confinement qui a été vraiment le... Voilà.
Stacy qui dit d'ailleurs, ça fait donc quelques mois qu'elle est abstinente, Stacy qui dit, alors je dis autour de moi en France, c'est celle qui a son accent américain qu'on entendait au début, je dis autour de moi, j'ai arrêté de boire, on me dit, t'es malade, t'es enceinte ou t'es au régime
C'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait avec Stacy, c'est que à la fois c'est une jeune femme, donc je pense que c'était très important d'entendre une femme d'une trentaine d'années nous parler de l'alcoolisme, parce qu'il y en a quand même énormément aujourd'hui. Et puis le fait qu'elle vienne des États-Unis, il y avait aussi ce regard porté sur la France. Ouais. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu ce décalage comme ça d'une femme venue d'ailleurs qui finalement nous décrivait un petit peu nos pratiques, nos coutumes, dont on a même plus plus de recul.
Plus.
Et c'est vrai quand elle dit qu'en France elle a découvert un petit midi minuit, mais on se reconnaît toutes.
Oui, enfin, on se reconnaît tous, évidemment. Docteur, le dernier mot pour conclure, les fêtes approchent. Janvier, c'est le mois de la sobriété, en tout cas c'est le mois où le milieu médical et psychomédical se mobilise.
Tout à fait, donc je voudrais d'abord dire à toutes les femmes qui nous écoutent et tous ceux qui sont malades d'alcool que nous sommes là, c'est vrai que c'est une période difficile, donc on doit consulter, on doit nous demander de l'aide et puis de respecter effectivement ce mois de janvier lorsqu'on est en difficulté avec l'alcool. Avoir une maladie alcoolique, c'est la perte de la liberté de s'abstenir d'alcool. Ça n'est pas une question de quantité, ça n'est pas une question de fréquence, c'est une question de parasitage de son esprit par l'idée de l'alcool. L'alcool occupe une grosse partie de votre tête, donc on ne peut pas s'en sortir tout seul, rarement en tout cas. Nous sommes là, et puis il y a ce mois de janvier qui est un mois de solidarité entre tous, pour pouvoir justement se libérer.
Et un mois de médiatisation, parce que ça va être le moment, Marie-Christine Gambard.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le docteur Fatma Bouvet de la Maison d'Oeuvre. Moi, ce qui m'a frappé en faisant ce film, c'est la sororité.
Oui,
c'est-à-dire le désir et le besoin qu'ont ces femmes qui se sont sorties de l'alcool, en tout cas de témoigner pour les autres. Toutes font partie d'associations, toutes ont envie de tendre la main. Et ça, j'ai trouvé ça remarquable.
L'émission est terminée.
Je voulais aussi remercier le service public de nous donner quand même l'occasion de pouvoir faire des documentaires comme
cela. Et c'est France 2, et c'est France 2 à 22h55, L'alcool au féminin, votre film Marie-Christine Gambard et votre livre Les femmes face à l'alcool chez Odile Jacob. Merci docteur. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour. Ce matin, pourquoi certains ont-ils besoin de croire dans le surnaturel, dans le merveilleux? Une émission avec le mensuel Ça m'intéresse. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.